réputé idiot, il arriva à faire croire ce qu'il entendait faire croire, tout un chacun de ses proches le sachant incapable d'articuler deux idées. Deux idées sans doute, si tant est que les idées soient de langage. Mais peu importe comment peut s'appeler, ce qui composait la mosaïque qui lui permettait d'agir avec une sorte de dextérité mentale qui aurait déconcerté tout témoin. Mais Onk, jusqu'alors, n'avait été témoin de ses exploits qui se réitéraient à chaque fois que les autres se fondaient sur le fait qu'un idiot est une espèce particulière de potiche. Parti comme il l'était, panier au bras et fistille près de lui, ce rare savait où il allait. Il aurait pu marcher les yeux fermés. L'empreinte du trajet était en lui, une bonne fois pour toutes, et jusqu'à sa mort. On n'a jamais su où les empreintes émigraient à la mort. Peut-être deviennent-elles fossiles dans les pierres. Gérard allait au gour. Ce gour est en remous dans l'eau de la rivière, alors qu'elle est sur le point de quitter son état de torrent. Le gour ne se voit pas, l'eau paraît calme, et tout autour et sur les rives, ce qui surprend, c'est la fraîcheur de l'air, qui même au plus fort de l'été ne cède pas. Il paraît que le corps de quiconque se noie là ne se revoit plus. Jamais. Les deux seuls corps qui ont été retrouvés étaient ceux de deux amants qui, en ces temps-là, étaient garçons et filles. Ils ont été retrouvés enlacés, comme il se doit, et même saucissonnés l'un à l'autre par une corde dont personne n'a jamais su d'où elle pouvait venir. Ils reposaient dans une grotte peu accessible qui se trouvait à 10 kilomètres en amont du gour. La morale de cette rumeur persistante de génération en génération est sans doute que l'amour a bien des vertus, y compris celle de vous permettre de suivre le cours de l'eau, mais à contre-courant. Gérard marchait, la joue prête à recevoir la caresse du froid, et là où il fallait guetter sur la rive droite, le figuier qui cachait l'entrée d'une grotte. Dans cette grotte, le sol est de sable et une goutte d'eau tombe toutes les 3 secondes. Qui habiterait là pourrait croire qu'une horloge marque le temps. Il la chercherait en vain, il attendrait l'heure, et puis rien, pas de carillon. Un morceau de la mosaïque, si mosaïque est le nom donné au mode de pensée de Gérard, un démo devient énorme, toutes les autres pièces de l'assemblage chassées on ne sait où, à la frange, de quoi nourrir le bestiau. C'est ce qu'on appelle n'avoir plus qu'une idée en tête. Si tant est qu'on puisse appeler idée des pièces de l'assemblage. Gérard regarde Fifty, mais est-ce là un regard, ce qui implore à ce point que Fifty se sent fondre la tête. Il dit jué. Peu importe en quelle langue il a parlé, en portugais peut-être le rébelle. Des gens sont venus au goût pour le renom, quel qu'il soit attire. Il 4 ou 5, il s'apprête à casser la croûte. Fifty a compris, connaît les mœurs des touristes comme un entomologiste spécialiste des fourmis, les habitudes coutumières de la fourmi rousse. Le touriste est une espèce en voie de prolifération. Il parcourt l'Italie, l'Espagne, le Brésil. Il regarde la favela comme ailleurs, il regarderait une vallée ou une pyramide, voire une caravane de chameaux. Pour eux, tout est zoo. Fifty s'approche des amateurs de gour et de favela, caché qu'il est par la voiture, calé sur la pente du sentier par une grosse pierre. Fifty enlève la grosse pierre, rien. Fifty va desserrer le frein à main, la voiture s'ébranle. Fifty le sait depuis longtemps, touriste crie comme une volaille, il apprécie les cris. Il est revenu à la grotte, un panier au bras. Un panier plus petit que celui de la ferme, mais panier quand même. Gérard n'en attendait pas moins. Il se donna encore joie de regarder les doigts de pied qui s'offrent à sa vue, sentant regarder un gros orteil salue, et puis l'autre aussi s'y met. Ils sont tous les deux à saluer, les grands, les autres ne saluent pas. Ils sont bien rangés, profitant que le regard est occupé. Fifty se tape, selon le bestiau, n'a rien à foutre. Ainsi Ainsi fit à sa manière le curé d'une paroisse du royaume d'Espagne, où le sang du Christ entre en ébullition le jour même où une année sur quatre, devenait bissextile. Le sang du Christ était dans une ampoule sur un petit meuble, dont la surface était trouée, de manière à ce que l'ampoule qui était posée là se sente d'aplomb. Et sous la planche du petit meuble, le curé, à l'insu des regards, car les épines devaient frémir à l'approche du miracle, glissait un tout petit réchaud dans la mèche trempée dans de l'alcool à brûler. Dans la grotte, loin du monde, loin des guerres et des voitures folles, la goutte d'eau tombait toutes les trois secondes comme si de rien n'était. Rien d'autre que la nécessité, semble-t-il absolue, qui faisait se détacher du roc la goutte lentement formée. Ainsi se font les stalactites. Les feuilles du figuier forment un rideau tout piqueté d'étincelles de soleil, pour peu que le vent souffle, ne serait-ce qu'à peine, et allait savoir ce qui bruisse. Les feuilles du figuier, l'eau du gour, ou le murmure lointain d'un monde dont on se demande s'il n'a pas disparu. Bon.